Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et pour parler d'Europe, ça ne change pas en 2023. C'est toujours avec Jean-Pierre Foultier. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Sébastien et bonne année à tous.
Eh ben bonne année également, plein de bonnes choses, de la santé surtout, et puis de bons moments à partager ensemble ici sur Open FM au cœur de ces chroniques européennes. Les fêtes sont passées, hein, ça y est, il faut se faire une raison. La série de chroniques que vous leur avez consacrée avant Noël, c'est donc terminé également. Et c'est donc sur un sujet tout neuf que l'on va attaquer avec vous cette année 2023, des chroniques culturelles de l'Europe sur Open FM. Mais reste à savoir quelle sera donc cette nouvelle thématique.
Oui, on ne peut pas faire la fête toute l'année, Sébastien aussi. Allons-nous passer à toute autre chose aujourd'hui, comme nous avons l'habitude de le faire depuis le début de ces chroniques. Un sujet sérieux donc, pour démarrer l'année, un sujet, disons, de culture politique qui va nous amener pendant 4 semaines à nous interroger sur l'architecture institutionnelle de cette Europe au cours des siècles jusqu'au projet unique qui a été celui dans la seconde moitié du XXe siècle de quelques pionniers d'une construction politique commune originale, l'Union européenne. Pour envisager aussi la suite, nous verrons quelle forme cette dernière, toujours en devenir, peut prendre. Revenir, comme d'aucuns le souhaitent, à une souveraineté renforcée des États-nations qui la composent, ou au contraire, aller vers une forme plus intégrée, c'est-à-dire la doter de davantage d'autonomie. Vous avez compris que ce n'est pas forcément très rock'n'roll, mais je m'efforcerai de rendre la chose la plus accessible possible, c'est promis.
On s'inquiète pas trop.
Alors, je vous propose d'ouvrir cette série sur une notion, celle de souveraineté.
Bon, alors on attend avec impatience la définition que vous allez nous en donner.
Bien volontiers. Un terme que l'on entend régulièrement à propos de l'actualité, souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire, pour désigner l'indépendance en matière d'approvisionnement notamment. Appliqué à un État, la définition qui lui convient le plus est celle utilisée par un intellectuel du XVIe siècle, Jean Bodin. Je le cite, « La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une république », le mot « république » étant à prendre ici au sens d'État.
Alors, on connaît assez peu ce Jean Bodin, vous pouvez peut-être nous en dire un tout petit peu plus sur lui déjà ?
Oui, et sur quelques autres de ces penseurs et théoriciens politiques de ces 16e et 17e siècles, au cours desquels cette notion d'État souverain a été vraiment mise en œuvre. Jean Bodin, donc, c'est un juriste, une profession assez répandue dans ce XVIe siècle, mais aussi économiste, ce qui est plus original. Un notable, donc, au service du roi Henri III notamment, et de grand du royaume. Il publie en 1576 un ouvrage de théorie politique, « Les 6 livres de la République », qui connaîtra en son temps une notoriété considérable, malgré le sérieux de son propos. Il a été plusieurs fois réédité, traduit en italien, en espagnol, en allemand et en anglais. À une époque où la France et une partie de l'Europe sont divisées, notamment par les guerres de religion, Bodin y affirme la souveraineté de l'État et le pouvoir du souverain. La souveraineté est le pouvoir de commander et de contraindre sans être commandé ni contraint. C'est une légitimation très franche du pouvoir absolu des monarques, une souveraineté qui s'exerce sur leurs sujets, mais aussi dans leurs relations avec les États voisins avec qui ils sont très souvent en guerre, comme ils le seront pendant la guerre de 30 ans.
Peut-être nous rappeler quelques souvenirs lointains de nos cours d'histoire au passage ?
Très succinctement, mais ce conflit est en quelque sorte fondateur de la géopolitique de l'Europe moderne. Une guerre européenne, selon une formule souvent utilisée, qui débute en 1618 en Bohême, une province aujourd'hui de cette République tchèque dont j'ai parlé il y a peu, donc pour des raisons religieuses d'abord, et qui va enflammer pendant 30 ans une grande partie de l'Europe. L'Allemagne qui en sortira déchirée, mais aussi la Suède, l'Espagne, le Danemark, l'Angleterre et la France de Richelieu. Elle se conclut en 1648 par le traité de Westphalie. pour l'historien Laurent Wirth, qui a donné récemment pour la Maison de l'Europe en Limousin une conférence passionnante. C'est, je le cite, une première diplomatique. Les grands États d'Europe se retrouvaient pour la première fois autour d'une table de négociation. Pour la première fois aussi, ces États discutaient de leurs relations dans le respect de la souveraineté de chacun d'entre eux.
Ce qui veut dire que c'est dans la guerre que s'est forgée l'histoire de l'Europe ?
Malheureusement, oui. Oui, car cette guerre de 30 ans avait fait des ravages en Europe. Je vais citer quelques lignes d'un roman allemand de 1668, Les aventures de Simplicius Simplicissimus, qui compte les déboires d'un enfant de pauvre paysan, chassé de chez lui par les violences guerrières. J'ai longtemps vécu en Europe et qu'ai-je vu ? La guerre, le pillage, le meurtre, l'incendie, des hommes martyrisés, des femmes déshonorées. Une guerre comme celle que mènera pendant plus de 30 années encore un Louis XIV qui, sur son lit de mort, confessera « J'ai trop aimé la guerre ». Au cours de ce XVIIe siècle, plusieurs penseurs européens vont réfléchir à l'organisation politique de leur nation pour, justement, les soustraire à cette fatalité.
Est-ce que vous nous donneriez quelques petits exemples ?
Un Hollandais, deux Anglais et un Allemand.
Ça vous va bien. Un peu de détails peut-être ?
Oui, à une époque où, contrairement aux idées reçues, on voyage beaucoup dans ce petit bout d'Europe pour y confronter idées et territoires. Ou pour se mettre parfois à l'abri des représailles que peuvent entraîner certaines prises de position. Cela a été le cas du premier, Grotius, réfugié en France et qui est l'auteur d'un ouvrage précurseur du droit international. L'un des deux Anglais est Thomas Hobbes, théoricien d'une souveraineté qu'il appuie sur l'idée d'un contrat social entre le peuple et le pouvoir absolu et qui prône de ne rechercher le secours de la guerre que si la paix est impossible à obtenir. L'autre, c'est John Locke, qui met, lui, en avant les droits de l'individu. On en a fait le fondateur du libéralisme politique. Le dernier, c'est l'Allemand Samuel Pufendorf, qui théorise cette idée d'État indispensable au maintien de l'ordre dans la société. Ces idées seront reprises dans les siècles suivants et essentiellement au XVIIIe, notre siècle des Lumières, qui verra avec Rousseau, Montesquieu, Kant, etc., s'affirmer ces théories d'organisation politique qui préfigureront l'Europe qui va se penser et se construire au cours des siècles suivants. J'aurai l'occasion de vous en reparler la semaine prochaine en examinant comment ces théories politiques ont contribué à configurer l'Europe des États que nous connaissons aujourd'hui.
Eh ben, rendez-vous la semaine prochaine pour faire ce petit saut dans le temps ensemble. D'ici là, Jean-Pierre, très bonne semaine.
Bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu pour construire ensemble la communauté européenne de demain avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges-Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.